8h. Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, mettra-t-il un coup de barre à gauche? Emmanuel Macron attendu ce matin à Montpellier pour un discours censé donner une couleur un peu plus sociale au quinquennat. Mais en attendant, ce sont d'autres mots du président qui détonnent ce matin. On a mis un pognon de dingue dans les aides sociales et ça ne marche pas, dit le chef de l'État, vous l'entendrez. La journée de toutes les divisions à la SNCF, CFDT d'un côté, CGT de l'autre. Les syndicats se déchirent désormais sur la question de la suite à donner au mouvement. Le sort des migrants de l'Aquarius n'en finit plus de provoquer des tensions entre Paris et Rome. Tensions aussi dans la majorité et dans une moindre mesure au sein de la droite. À 8h20, votre invité Nicolas, vous recevez ce matin la ministre de la Justice.
Nicole Belloubet, avec laquelle vous pourrez dialoguer vers 8h40, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Dans ce journal également, la dernière ligne droite pour les candidats au bac avant l'épreuve de philo lundi. Un détour au pays des jeux vidéo à Los Angeles. Et puis la Coupe du monde de foot à 24 heures maintenant du coup d'envoi. Un président devrait-il parler comme ça? C'est le service de presse de l'Élysée qui a publié la vidéo hier soir. On y voit Emmanuel Macron en train de peaufiner devant son équipe le discours qu'il tiendra tout à l'heure à Montpellier devant le congrès de la Mutualité. Discours censé remettre une touche de social dans la palette du quinquennat, mais n'attendez pas que les milliards tombent du ciel. C'est ce que dit, à sa façon, vous allez l'entendre, Emmanuel Macron.
Moi, je crains un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise, et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil.
On met un pognon de dingue dans les minima sociaux, dit le chef de l'État. Cyril Graziani, vous êtes à Montpellier, où Emmanuel Macron doit s'exprimer en fin de matinée. Certains dans son camp le pressaient de faire un pas vers la gauche, d'envoyer en tout cas des signaux de fumée. À entendre la tonalité de cette vidéo, c'est pas gagné. Hein.
Emmanuel Macron n'est pas du genre à céder sous la pression, a fortiori quand elle vient des siens. Jusqu'ici, il est resté indifférent aux appels lancés par son aile gauche, mais en même temps, sans jamais l'avouer publiquement, l'Élysée cherchait une mesure, celle permettant de réaffirmer une fibre sociale, de rééquilibrer quelque peu, et au passage, de rassurer tous ceux qui, dans son camp, commençaient à trouver que la feuille de route n'était pas vraiment celle vendue il y a un an. Avec le reste à charge zéro, c'est-à-dire le remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses, Emmanuel Macron pense avoir trouvé la mesure idoine, promesse emblématique de sa campagne, même s'il a confié en privé que sa mise en œuvre avait été très complexe. Alors, est-ce le virage tant attendu par les marcheurs? Non, répond l'Élysée, ce n'est pas un tournant social mais un approfondissement et une continuité de son discours, notamment comme quand cette nuit, le chef de l'État explique vouloir prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens. Notre but, ce n'est pas de donner plus ou moins, résume une proche du chef de l'État, mais de répondre aux attentes quotidiennes des Français.
Et dans cette vidéo, merci Cyril Graziani, Emmanuel Macron défend justement cette mesure du reste à charge zéro. Je demanderai des efforts aux mecs qui font des lunettes, dit-il, et aux types qui font les verres, opticiens et ophtalmo apprécieront. Plus besoin de payer donc à l'avenir pour certains soins, la sécu le fera pour vous. Mais dans le même temps, ce sont les tarifs des mutuelles qui explosent. Enquête de l'UFC Que Choisir. Entre les frais de gestion qui augmentent et les contrats illisibles, l'association se demande s'il n'aurait pas fallu d'abord faire le ménage au sein des complémentaires santé. Véronique Julia.
Pour un euro versé à sa complémentaire, combien l'assuré récupère-t-il? Quel pourcentage lui est finalement redistribué? Dans certains contrats, même pas la moitié, dénonce l'UFC qui pointe surtout les abus des contrats individuels. Des contrats illisibles, dit-elle, pour la plupart, le vocabulaire employé est incompréhensible et les remboursements à prévoir ne sont pas clairement indiqués. Résultat, l'assuré est complètement perdu. Alain Bazot, le président de l'UFC.
C'est des pourcentages, mais on ne comprend pas le pourcentage par rapport à quoi. Il n'y a pas une bonne distinction entre ce qui est la part de l'assurance maladie et ce qui est la part de la complémentaire santé.
Deuxième point noir, l'envolée des tarifs et des frais de gestion. Depuis 2010, la cotisation moyenne payée par les assurés aurait progressé de 47%. C'est trois fois plus que l'inflation. D'après l'association, les complémentaires dépenseraient aussi de plus en plus pour démarcher de nouveaux clients, près de 3 milliards d'euros en 2016.
En l'espace de 6 ans, les frais de gestion ont augmenté 2 fois plus que les remboursements au profit des assurés.
L'UFC dénonce la passivité des pouvoirs publics vis-à-vis de ces abus. En 2010, les complémentaires s'étaient engagés à respecter des bonnes pratiques. 8 ans après, rien n'a bougé, déplore l'UFC, qui réclame toujours des contrats plus lisibles. Elle voudrait aussi que chaque complémentaire soit tenu de rendre public le taux de redistribution qu'elle garantit à ses assurés.
Des jeux, des aéroports et du gaz, le gouvernement l'a confirmé hier soir. Il va bien ouvrir les vannes des privatisations dans les mois qui viennent en vendant ses parts dans 3 entreprises, la Française des Jeux, les aéroports de Paris et Engie, l'ancien GDF Suez. L'État détient 15 milliards au sein de ces 3 entreprises, mais on ne connaît pas encore le montant des ventes. Pas question de lever le pied, au contraire. À la SNCF, la CGT Cheminot veut relancer le mouvement et prolonger la grève au-delà du 28 juin. C'est ce qu'elle va proposer aux autres centrales réunies aujourd'hui en intersyndicale. Pas sûr qu'elle soit entendue par la CFDT, qui plaide au contraire depuis hier pour une trêve la semaine prochaine, pour ne pas pénaliser les candidats au bac. Le front syndical se fissure, Raphaël Ebenstein, et même un peu plus que cela.
Ça va barder cet après-midi, confie un cadre syndical ulcéré parce qu'il considère comme un petit numéro en solo de la CFDT Cheminot qui suscite d'autant plus d'incompréhension qu'elle avait rejeté la semaine dernière une proposition similaire de l'UNSA de suspendre la grève au moins le 18 juin, jour des premières épreuves du bac. Bref, la CFDT est soupçonnée de préparer tout simplement sa prochaine sortie de grève, des soupçons qui n'épargnent d'ailleurs pas non plus l'UNSA et pourtant... C'est avec ces 2 seuls syndicats que la CGT va discuter aujourd'hui de la suite du mouvement avant l'intersyndicale officielle. Autrement dit, sans la présence de Sudrail. Sud, accusé dans un tract cégétiste cette semaine de vouloir créer l'illusion de la radicalité, d'avoir choisi la tactique de la division en sortant pendant 2 jours du calendrier de grève initialement établi. La CGT voudrait d'ailleurs étendre ce calendrier au-delà du 28 juin. Mais sans aucune certitude, voire sans aucune chance d'être suivi.
Aujourd'hui, c'est la 30e journée de grève qui débute, ce qui fait déjà de ce mouvement le plus long sur les rails depuis 30 ans. Là, la grève n'y est pour rien. Le trafic est entièrement interrompu ce matin. Gare Saint-Lazare à Paris, c'est la plus grande gare de France, en raison d'une panne de signalisation. La SNCF demande à tous les voyageurs de repousser leur déplacement. 350 000 voyageurs y prennent un train chaque jour. Pas d'accord entre les agriculteurs et leurs ministres cette nuit, alors que la FNSEA bloque toujours une 20aine de raffineries et de dépôts de carburant. Tout le monde s'est quitté vers 3h du matin, mais sans avancée notable d'après le syndicat agricole.
Il est 8h07, Marc. L'Aquarius met le cap à l'ouest.
Après 2 jours à faire des ronds dans l'eau, le navire humanitaire a pris la direction de l'Espagne où il devrait accoster ce week-end. Le sort de ces 629 passagers que l'Italie refuse d'accueillir a provoqué hier un mini-clash diplomatique entre Rome et Paris. Dans la matinée, Emmanuel Macron avait dénoncé le cynisme du gouvernement italien. « Nous n'avons pas de leçons à recevoir », a répliqué le président du Conseil italien, suivi quelques heures plus tard par son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a interpellé Emmanuel Macron. Emmanuel, si tu as le cœur aussi grand que tu le dis, demain nous te donnerons les 9000 migrants que tu t'étais engagé à accueillir, lui a-t-il lancé. L'Aquarius provoque aussi un début de tempête au sein des marcheurs, réunion de groupe houleuse. Hier à l'Assemblée, quelques députés ont même claqué la porte. Et à droite aussi, une voix s'élève, celle du député Les Républicains Philippe Gosselin, qui ne comprend ni la décision de la France, ni celle de son parti qui veut renvoyer les migrants en Libye. Il l'a dit à nos confrères de France Info.
Là, il ne s'agit pas de gérer des déboutés du droit d'asile, il s'agit d'assurer une mission d'assistance à personnes en danger. Et je le dis très clairement, aujourd'hui, nous, collectivement, et la France, a une vraie responsabilité, n'assumons pas l'assistance à humanité en danger. Et je trouve très gonflé, je le dis comme je le pense, cette façon de procéder de la France qui renvoie l'Italie devant ses responsabilités, qui gentiment va donner une aide, laquelle, entre parenthèses, à l'Espagne, alors que nous aussi, Français, aurions pu accueillir, je dis pas qu'il fallait leur donner le droit d'asile, ça c'est un autre débat, mais au moins accueillir pour des raisons humanitaires ses enfants, ces personnes en danger.
Philippe Gosselin, député LR de la Manche, Bernard Guetta, y reviendra juste après ce journal. Ces deux-là ne se quittent plus. Au lendemain du sommet de Singapour, Donald Trump annonce avoir accepté l'invitation de Kim Jong-un. Il se rendra bien en Corée du Nord à une date encore inconnue. Le leader nord-coréen, lui aussi, accepte le principe d'une visite aux États-Unis.
4 anciens candidats dans le viseur d'Anticorps.
L'association anticorruption s'apprête à porter plainte contre X. Ce matin, elle demande à la justice de vérifier vérifier les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon, après les révélations de presse de ces dernières semaines sur les ristournes et autres dépenses suspectes des candidats. Sarah Guibaudot.
La commission des comptes de campagne avait retranché pour Marine Le Pen près de 900 000 euros de dépenses injustifiées et près de 400 000 euros pour Jean-Luc Mélenchon. Cet argent n'a donc pas été remboursé par l'État. Mais pour Anticor, la justice doit aller plus loin. Car dans les deux cas, on retrouve des proches des candidats à la tête de prestataires qui ont travaillé pour la campagne, des proches dont les services coûtent cher. Anticor soupçonne des surfacturations. Aujourd'hui, le candidat de la France Insoumise est le seul à faire l'objet d'une enquête préliminaire. Pour Emmanuel Macron et dans une moindre mesure pour Benoît Hamon, ce sont les ristournes, les rabais consentis par des fournisseurs qui sont visés par Anticor. La commission des comptes de campagne admet dans certaines limites ces remises commerciales, mais souvent elle ne les a même pas vues. Anticor demande une application stricte du code électoral qui bannit tout financement par une entreprise, y compris par des services à prix cassés. Pour l'association, c'est l'égalité entre les candidats qui est en jeu et les remises peuvent servir à minorer les dépenses de campagne pour rester sous le plafond.
Sarah Guibaudot finit de gronder. Les orages devraient enfin quitter la France aujourd'hui après une dernière alerte. 13 départements restent en vigilance ce matin. Les pluies violentes devraient toucher le Pays Basque, la Bigorre et le sud du département des Landes.
Le plus jeune a 11 ans, le plus âgé en a 76, mais lundi prochain, ils plancheront devant les mêmes copies.
Ce sont les candidats du bac, évidemment. Ils sont 753 148 cette année, c'est très précis, c'est 5% de plus que l'an dernier. Et à l'heure où nous nous parlons, si tout va bien, ils sont déjà debout, bien sûr, et puis dans les fiches. Sonia Bourane est allée à leur rencontre dans un lycée des Yvelines à 5 jours désormais de l'épreuve de philo.
Pour ces tout derniers jours de révision, le programme est intense pour Yanis et Lorraine.
Que des fiches, on révise. Parce que dans certaines matières, les leçons sont assez longues. Et dans d'autres, c'est que du par cœur, comme les maths et tout, donc il faut apprendre les formules.
Il y a beaucoup de sites qui sont franchement très bien pour réviser, et du coup, on se sert de ça pour faire des exos, les corriger. Et...
Chacun a sa technique pour rester concentré jusqu'au bout. Lilou, Romain, Megan et Marie ont leurs astuces.
Quand je suis un peu stressée, je chante un peu et ça me déstresse. Et voilà, après j'arrive à me reconcentrer. Et après, quand je révise, moi j'ai une mémoire visuelle, donc c'est beaucoup de couleurs différentes. Entre les exemples, les mots-clés et les explications.
Si je vois que quelque chose ne rentre pas du tout, je laisse tomber parce que je vois que je perds du temps et qu'il faut que je passe à autre chose.
Moi, j'ai plutôt une mémoire auditive. Donc, je lis mes cours et après, je les récite à voix haute et ça me permet de mieux mémoriser.
J'essaye de mettre mon téléphone plus loin, j'éteins la télé et après, je me mets dans ma salle à manger, je ferme la porte à clé comme ça. Je suis tranquille.
Mais pour Vincent, un point primordial.
Il ne faut pas négliger le sommeil parce que quand on a un manque de sommeil, ça ne sert plus à rien de travailler. Si on travaille pour rien, on perd son temps. Autant se reposer qu'essayer de travailler dans le vide.
Ne pas oublier de faire quelques pauses pour être en forme le jour J, c'est aussi ce que conseillent les professeurs.
Reportage au lycée Sangor de Magnanville dans le département des Yvelines. Le bac qui, pour ajouter un peu à la joie des révisions, tombe en pleine Coupe du Monde. Cette année, Griezmann ou Platon, il faudra choisir. Le coup d'envoi de la compétition, c'est demain en Russie où les supporters commencent à arriver. Et la première étape, c'est de se faire accréditer pour accéder au stade car un simple billet ne suffit pas. Reportage Béatrice Duguay.
Il n'y a pas encore foule dans le centre ouvert près du stade Loujniki à Moscou, mais les préposés offerte à bon rythme derrière une bonne trentaine de guichets. Masha, jeune maman de deux petits-enfants, a son sésame autour du cou. Vous prenez un ticket, vous vous enregistrez, on vous prend en photo et une heure plus tard, on récupère l'ID, le pass des supporters. Effectivement, à intervalles réguliers. En fait, ce fan ID sert de visa et en cas de mauvais comportement, il est confisqué. Rassurant pour Masha. À mon avis, c'est une bonne idée pour assurer la sécurité de chaque personne, quelle que soit sa nationalité. C'est une assurance que tout va bien se passer, y compris pour ceux qui ont des jeunes enfants comme nous. Masha, son mari néerlandais et son petit garçon de 3 ans iront voir donc deux matchs de la première phase. Un seul pour Andrei, 12 ans, milieu défensif dans le club de son école de foot. Ce sera Portugal-Maroc. Il y a longtemps que je veux voir Cristiano Ronaldo. Je vais aller voir le match pour lui. Il joue super bien. J'aime comme il manie la balle. Il travaille dur. Quant à la Zbornaïa, la sélection russe, Andrei ne la voit pas gagner la Coupe du Monde. Passer le premier tour, ce serait déjà bien, dit le garçon.
Moscou, Béatrice, Duguay. France entière.
Reportage Béatrice Duguay, des nouvelles également de l'infirmerie, de l'infirmerie des Bleus. À 3 jours de leur entrée en lice, ça va mieux pour Kylian Mbappé, dont la cheville avait pris un coup hier à l'entraînement. Inquiétude en revanche pour Djibril Sidibé, le défenseur est blessé au genou et pourrait être contraint de déclarer forfait. Et puis avant la Coupe du Monde, c'est l'heure du vote aujourd'hui pour la FIFA qui doit choisir le pays hôte de la compétition en 2026. Il faut choisir entre deux dossiers. D'un côté, une candidature commune entre les États-Unis, le Mexique et le Canada qui font figure de favoris. Et de l'autre, le Maroc.
Et direction Los Angeles pour terminer.
Avis à tous les amateurs, le plus grand salon au monde dédié aux jeux vidéo vient d'y ouvrir ses portes. Et la star cette année, c'est le jeu qui cartonne sur tous les écrans, Fortnite, qui a déjà séduit 45 millions de joueurs. Un jeu de survie, vous êtes 100 au départ, un seul à l'arrivée. Loïc Piala, lui, a tenté de survivre au milieu des fans.
C'est incontournable. À l'E3, il faut faire la queue pour jouer. Nick attend son tour pour une nouvelle partie de Fortnite. Il y joue depuis octobre. Beaucoup.
I don't know, man.
Oh là, je sais pas, mec. Des milliers d'heures, je dirais 2000 en tout.
Le jeu est sorti l'été dernier. 11 mois plus tard, il a l'un des plus gros stands du salon. Un bus a été installé surplombé par une boule à facettes. On peut s'essayer à du rodéo mécanique ou s'enregistrer en train de danser sur fond vert tout en se gavant de pop-corn gratuit. Un stand à l'image d'un jeu coloré et addictif. John est fan.
Ça a un côté dessin animé, mais c'est suffisamment réaliste pour que ce soit fun et tout le monde veut jouer.
Fortnite est gratuit, ça explique son succès, mais c'est une très bonne affaire pour Epic Games, l'éditeur. Glenn Chapman, journaliste spécialiste de la technologie.
Les joueurs vont acheter une bannière ou des vêtements ou encore une coupe de cheveux pour leur personnage. Ce ne sont pas des grosses sommes, mais multipliées par des millions de joueurs, ça fait une sacrée source de revenus.
Le phénomène n'est pas près de s'essouffler. Epic Games a confirmé à l'E3 que le jeu serait bientôt disponible sur la console Switch de Nintendo et sur les smartphones Android. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Voilà, disons que l'usage de Fortnite est fortement déconseillé aux candidats au bac, hein, s'ils veulent essayer de l'avoir cette année.
Ouais. Merci Marc Fauvel.